Vous êtes avec SBS French.
Les grands titres de ce dimanche 14 novembre, le pacte climatique de Glasgow a été conclu pour la lutte contre le réchauffement de la planète. Un parc national de la Nouvelle-Galles du Sud va être rebaptisé pour reconnaître le patrimoine culturel des gardiens traditionnels de la région. Et après deux semaines de débats, les pays de la COP26 ont adopté hier samedi un pacte de Glasgow pour la lutte contre le réchauffement de la planète. Le texte a été adopté. Le président britannique de la conférence pour le climat, Alok Sharma, était très ému.
I would say, however, that this is a fragile win. I wish that we had managed to preserve the language on coal that was originally agreed. Nevertheless, we do have language on coal, on phase down, and I don't think anyone at the start of this process would have necessarily expected that that would have been retained, but it has. And I think that is down to the flexibility and the goodwill actually shown by many of the parties.
Et maintenant, on passe au reportage de Jeanne Richard sur place pour Radio France Internationale.
Oui, il est 19h40 à Glasgow quand le président de la COP, Alok Sharma, déclare officiellement le texte adopté.
Hearing no objections, it is so decided.
Oui, mais voilà, au dernier moment, en coulisses, il semblerait que l'Inde ait fait pression pour modifier un mot avec le soutien de la Chine. Un seul mot, mais qui change tout. Au lieu de supprimer le charbon, le texte final ne prévoit plus que de réduire le recours au charbon. C'est un recul majeur de dernière minute. Alok Sharma, ému, déçu, s'en excuse.
I apologize for the way this process
Je tiens à m'excuser pour la manière dont ce processus s'est achevé. Je suis terriblement désolé. Je comprends aussi la terrible déception exprimée. Mais comme vous l'avez compris, il est vital de sauver cet accord.
Cet après-midi, les États avaient accepté un compromis sur le texte, parfois contre-cœur. Les pays en voie de développement en particulier demandaient des financements pour les aider à faire face au changement climatique, mais rien ne leur a été accordé. Toutefois, des progrès compensaient cette déconvenue, notamment la sortie du charbon. Le président de la COP avait même fait de la lutte contre le charbon, je cite, « une affaire personnelle ».
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que le monde devait passer en mode d'urgence sur le changement climatique, car l'accord ne va pas assez loin. Cependant, M. Guterres reconnaît que l'accord établit des bases importantes pour le progrès.
The outcome of COP26 is a compromise. It reflects the interests, the contradictions, and the state of political will in the world today. We must accelerate climate action to keep alive the goal of limiting global temperature rise to 1.5 degrees. I want to send a message to young people, indigenous communities, women leaders, all those leading on climate action. I know you are disappointed, but the path of progress is not always a straight line.
Les dirigeants seront convoqués à nouveau en 2022, 2024 et 2026 pour discuter des promesses de financement et des objectifs de réduction des émissions. Le ministre fédéral de la Santé en Australie, Greg Hunt, invité de l'émission ABC Insiders ce dimanche matin, a été interrogé par David Pearce, le journaliste, pour savoir si le gouvernement fédéral mettra ou non à jour ses objectifs d'ici l'année prochaine dans le cadre de l'accord.
Will you update the target?
Well, we've set our target, but what we'll continue to do is update our projections. But the target
This agreement says you've got to update the target.
Projections continue to meet and beat the target. It reminds me of Prince Hal to Hotspur in Henry IV. I never promised to pay thee, but now that I'm here, I'll pay thee double. It means under promise, over deliver.
Okay,
and
appreciate
that's what
that
we've
point.
Done. Have a clear target, and what we change is our projections.
Voilà, Greg Hunt faisait allusion à la pièce de Shakespeare, Henri IV. Les militants écologistes, experts et défenseurs du changement climatique ont critiqué l'accord COP26, en particulier des engagements de l'Australie. Le chef de la recherche du Climate Council, le docteur Simon Bradshaw, a déclaré que l'Australie s'était présentée les mains vides et avait laissé tomber ses voisins du Pacifique. Le président de Bushfire Survivors for Climate Action, Joe Dodds, déclare qu'il est honteux que l'Australie adopte toujours le charbon. Le chef des Verts, Adam Bent, a déclaré que l'Australie est considérée comme l'un des méchants du sommet, alors que le leader travailliste fédéral, Anthony Albanese, a déclaré que le Premier ministre, Scott Morrison, devait être transparent avec toute mise à jour potentielle de ses objectifs de réduction des émissions avant les prochaines élections fédérales.
And Australia's report card is a definite fail. Because what we've seen from this government is more spin rather than substance. This is a Prime Minister who can't be trusted. The Labor Party all accepts the science on climate change. And we also all accept the opportunity that is there.
905 nouveaux cas de COVID-19 détectés dans le Victoria depuis hier. 4 autres décès liés au virus ont également été enregistrés. L'État continue de gérer plus de 17 300 cas actifs avec 394 patients dans les hôpitaux, dont 75 en soins intensifs. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 195 nouveaux cas de COVID-19 acquis localement et un autre décès. De nouvelles données de New South Wales Health montrent que 94% des résidents âgés de 16 ans et plus ont reçu au moins une dose d'un vaccin, tandis que 91% ont reçu les deux doses. Le parc national Ben Boyd, sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud, sera renommé, reconnaissant ainsi le patrimoine culturel aborigène de la région. La décision fait suite aux demandes des communautés autochtones de nommer le parc en raison de l'association de Ben Boyd avec le merle noir, une pratique qui impliquait la coercition des personnes par la tromperie ou l'enlèvement pour travailler comme esclaves ou travailleurs mal payés. Le ministre de l'Environnement de l'État, Matt Keane, a déclaré qu'il travaillerait avec les elders et les représentants de la communauté autochtone pour identifier un nouveau nom pour le parc dans les semaines à venir. Le coroner de l'État du Victoria se prépare au lancement de l'enquête sur les décès liés au COVID-19 dans le centre de soins de St. Basil de Melbourne pour les personnes âgées, lorsque l'épidémie de coronavirus de la deuxième vague a balayé l'État du Victoria. L'année dernière, elle a durement touché le système de soins pour les personnes âgées. Au St. Basil's Home for the Aged à Fawkner, au nord de Melbourne, des centaines de résidents et de membres du personnel ont été testés positifs et 45 résidents sont décédés. Annoncée en août de l'année dernière, l'enquête du juge John Kane était initialement limitée au décès de 5 résidents, mais depuis a été élargie pour enquêter sur tous les décès dans la résidence du au COVID-19. 64 témoins comparaîtront en 5 semaines. Le Victorian Aboriginal Legal Service, Amnesty International, le Human Rights Law Centre demande un plan visant à relever l'âge de la responsabilité pénale à 14 ans. Les avocats disent qu'une proposition faite lors de la réunion des procureurs généraux hier pour élaborer un plan visant à relever l'âge de la responsabilité pénale à 12 ans est une occasion manquée de s'occuper des enfants. Les preuves médicales et les normes internationales suggèrent que 14 ans est l'âge minimum auquel un enfant devrait être tenu pénalement responsable. Le gouvernement fédéral a marqué la journée internationale du diabète en publiant un nouveau plan de 10 ans pour soutenir les Australiens vivant avec toute forme de diabète. L'Australian National Diabetes Strategy vise à améliorer la prévention, la détection précoce, la gestion et les soins de personnes atteintes de diabète. Environ 1 Australien sur 20 est atteint de diabète. La nouvelle stratégie présente une nouvelle campagne avec des détails et des actions spécifiques pour les groupes de population prioritaires, y compris les aborigènes et ceux du détroit de Torres, ceux d'origine culturelle et linguistique diverses et les femmes enceintes. En France, des commémorations des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. Des pots de gerbes aussi devant le Stade de France, les terrasses des cafés, la salle de concert du Bataclan où des commandos de l'État islamique avaient tué 130 personnes et fait plus de 400 blessés. Reportage Lucie Bouteloup pour RFI.
En mémoire des victimes blessées et assassinées des attentats du 13 novembre 2015.
Stéphane Albertini.
Sous un ciel de plomb et devant une assemblée restreinte, la cérémonie a commencé par la lecture du nom de chacune des 90 personnes décédées au Bataclan. Après un dépôt de gerbes de fleurs par les associations de victimes, mais aussi par la maire de Paris, Anne Hidalgo, le Premier ministre Jean Castex et Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur, un dernier temps a été consacré au recueillement avec une minute de silence. Les riverains, eux, ont dû attendre la fin de la cérémonie pour pouvoir venir à leur tour se recueillir sur place. Un moment important pour Martine, une habitante du quartier qui, comme chaque année, vient avec la même émotion déposer son bouquet de roses blanches.
Ça fait 6 ans, mais bon, ça reste dans nos têtes. Puis bon, bah, ça me remémore tout ce qui s'est passé ce 13 novembre. Le lendemain, moi, je venais courir et j'ai vu toutes les horreurs là devant le Bataclan. Et pour moi, ça a été très dur.
Même émotion pour Charlotte. Cette nuit-là, elle aussi, elle s'en souvient.
C'est vrai que là, juste en voyant la scène, j'ai un peu la boule au ventre. Mes parents, ils étaient dans cette rue-là le soir même. Mais je me dis que c'est une chance inouïe qu'ils n'étaient pas dans la salle à ce moment-là. Je pense que c'est vraiment super important qu'on se souvienne des victimes. Même pour les proches, ça montre qu'on pense toujours à eux et qu'il y a des gens qui sont là pour les soutenir.
L'hommage s'est prolongé dans l'après-midi devant la mairie du 11e arrondissement de Paris.
Les dernières nouvelles sur la crise migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie avec ce reportage de Gulliver Craig de France Média Monde.
Nous sommes arrivés hier soir dans le village de Verstok, à 4,5 km de la frontière, juste en dehors de la zone interdite, où on avait rendez-vous avec un couple qui, depuis des mois maintenant, essaye d'aider les migrants. Et au moment où on est arrivé, le monsieur Camille était en train de sortir pour aller dans les bois pour apporter de l'aide à un groupe de 3 Syriens qui lui avaient envoyé leur géolocalisation. Il ne voulait pas qu'on vienne parce que les Syriens voulaient être discrets, ils sont cachés dans les bois. Ça, c'est le quotidien des gens qui aident les migrants ici dans le coin. Tout le temps, ils reçoivent les géolocalisations, ils vont à l'encontre de ces migrants. Après, Camille nous a raconté que ces 3 jeunes hommes étaient dans un état de santé assez fragile. Ils avaient visiblement très froid. Ils disaient que cela faisait déjà plusieurs jours qu'ils étaient là, mais ils ont même refusé l'offre de Camille de plus de vêtements chauds. Ils ont juste pris de l'eau et de la nourriture en disant qu'ils avaient bon espoir que les passeurs allaient bientôt venir pour les amener en Allemagne. On ne sait pas combien de petits groupes de migrants sont cachés dans les bois comme ça, mais je crois qu'ils sont nombreux. Ils ne veulent pas demander l'asile en Pologne parce qu'ils ont reçu l'information que la Pologne considère très peu de demandes d'asile. La plupart des migrants, la Pologne les refoule.
Les élections présidentielles aux Philippines de 2022, avec la fille du président sortant, Rodrigo Duterte, qui renonce à être candidate à la vice-présidence. Les explications de Harim Lipold pour RFI.
Cette annonce est une surprise. Jusqu'à présent, Sara Duterte, 43 ans, était la favorite de l'élection présidentielle. Les sondages l'ont placée devant son rival Ferdinand Marcos Jr., surnommé Bongbong, le fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos. Les observateurs pariaient sur un accord entre Duterte et Marcos pour que la première postule à la présidence et le second à la vice-présidence, un poste sans grand pouvoir. Mais c'est donc l'inverse qui se produira, sachant qu'aux Philippines, il y a des élections distinctes pour les 2 mandats. Ferdinand Marcos Jr., en apprenant la décision de Sara Duterte, lui a tout de suite apporté son soutien. Il a aujourd'hui de bonnes chances de remporter l'élection présidentielle en mai prochain. Selon certains observateurs, les cotes de popularité de Sara Duterte et de son père se sont dégradées ces derniers mois. Le vent aurait tourné en faveur de Ferdinand Marcos Jr. Le problème, c'est qu'il a été condamné plusieurs fois pour fraude fiscale dans les années 90. Ses détracteurs ont demandé à la commission électorale d'invalider sa candidature. En 2016, il avait déjà essayé de briguer la vice-présidence des Philippines, une élection perdue de justesse.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie à Perth. Il fera 31 degrés. Adélaïde 17, Melbourne 15, Hobart 14, Canberra 13, Sydney 23, Brisbane 28, Cairns 32, Darwin 36 et à Alice Springs, maximal de 25 degrés. Un rappel des grands titres de ce 14 novembre, le pacte climatique de Glasgow a été conclu pour la lutte contre le réchauffement de la planète. Un parc national de la Nouvelle-Galles du Sud va être rebaptisé pour reconnaître le patrimoine culturel des gardiens traditionnels de la région. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.